Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations avec Belinda Bosuma.
Plus de 100 000 personnes se retrouvent sans abri dans les territoires de Bukama et Malembankoulou dans le Haut-Lomami. C'est à la suite des inondations dues aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. L'alerte est du député provincial Kalenge Mwenzeni. Des solutions urgentes s'imposent, dit-il. À Bandundouville, 15 hommes armés du groupe Mobondo, condamnés à mort hier par le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe, ils sont poursuivis pour terrorisme, pillage et participation à des mouvements insurrectionnels dans le conflit interethnique de Kwamout au Maïndombe. Et puis, l'invité de ce midi, Alain Mugangu, chef de division technique à l'Office des routes Sud-Kivu, il revient sur la question de la dégradation des routes nationales qui passent par la province du Sud-Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 100 000 personnes se retrouvent sans abri dans les territoires de Bukama et Malembankoulou dans la province du Haut-Lomami. C'est à la suite des inondations dues aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Les victimes sont encore sans assistance. Le député provincial du Haut-Lomami, Kalenge Mwenzeni, tire la sonnette d'alarme car ces personnes, dit-il, sont exposées à des intempéries et des solutions urgentes s'imposent. Des détails avec Jean Ganduka Bongo.
Sont les plus abondantes qui s'abattent dans la région qui ont fait déborder les eaux du fleuve dans les deux territoires. À Bukama, les quartiers les plus touchés sont notamment Kisangawabioni, Bukama et le quartier commercial. Les eaux ont envahi les maisons, obligeant les occupants à abandonner leurs résidences et à chercher refuge ailleurs. Les uns sont dans les familles d'accueil et les autres passent la nuit à la Belle Étoile, s'exposant ainsi à toutes sortes d'intempéries. À Malembankoulou, le spectacle est presque le même, mais les victimes sont moins nombreuses qu'à Bukama. Les villages riverains les plus touchés sont Kimwenze, Bouinemalengue, Bouyaba, Mwanzampungwe, Kisambwe, Kana et Kayumba. Dans tous les deux territoires, on compte aussi des maisons endommagées. Le député provincial Kalenga Mwenzemi a, dans une motion d'information, saisi le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, qui aussitôt a fait des recommandations au gouvernement provincial pour des interventions urgentes. Pour le professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert en environnement,
combiner les pluies, les orages avec des vents violents, les constructions anarchiques associées au déboisement, les chaleurs intenses provoquent certainement des inondations, et cela se fait pratiquement chaque année. Le changement climatique au niveau mondial, certainement, étant le facteur influençant.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sud-Kivu, à Bukavu, 4 personnes d'une même famille sont décédées dans un incendie survenu hier matin. Plusieurs biens sont également partis en fumée. L'accident est survenu au quartier Chikoni dans la commune de Bagira. Selon la société civile locale, les 4 victimes sont les 2 parents et leurs 2 enfants. Pour l'heure, l'origine de l'incendie demeure inconnue. La société civile regrette les incendies à répétition dans la ville de Bukavu. Cette structure plaide auprès des autorités pour des actions appropriées qui permettront d'endiguer ce phénomène. Rendons-nous à Bandundouville, je vous l'ai dit dans les titres. 15 hommes armés du groupe Mobondo ont été hier condamnés à la peine de mort après la condamnation de plusieurs autres à la même peine par le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe. Ils sont poursuivis pour des actes de terrorisme, pillage et participation à des mouvements insurrectionnels dans l'affaire du conflit interethnique de Kwamout au Maïndombe. Les faits mis à leur charge se sont passés sur l'axe routier situé entre les villages Mibe, Mucheto, Chomaku et Bisiala sur la nationale numéro 17 dans le secteur Toa, territoire de Kwamout. C'était entre août et novembre 2022. Irène Boma.
Il s'agit notamment de Kaluila alias 6 vitesse Satan, Kazunga Mengawa Nijan, Kombozi Bokata Cédric, Mingu Kamuleta Manasse, Kake Samiala Arnold, Ngunza Mutesa Patrick, Kabeya Papi alias Sibor, Ngwanza Patience, Suka Mavinga Jean-Pierre, Rodi alias Major, Mopai Georges Mozombo, Manga Kangolo Jérémy, Ngyangia Adeshondo, Ngwala Ngyaka et Kimvula Mbuluku Mbuta. Dans son réquisitoire, l'auditeur colonel Richard Kabeya a requis leur condamnation à la peine de mort pour participation au mouvement insurrectionnel, à la servitude pénale à perpétuité pour pillage et à la peine de mort pour les actes de terrorisme. Ces 15 assaillants sont aussi condamnés au paiement de 12 000 $ à chacune des 13 parties civiles. À l'occasion, le tribunal a déclaré l'extinction de l'action publique à l'encontre de Moumou Nafidel, Moutomboka Kwenijier, Makila Tanfumu Fidel, Ngubansamba Kiziba, Kinzombo Mayamba et Lokwa Bolumbu Kembo, tous décédés dans la prison centrale de Bandundu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Justice pour les victimes de Kishishe et Bambo dans le Nord Kivu. Le réseau contre le terrorisme, RCT en sigle, exige des poursuites judiciaires contre les plus hauts responsables du M23 RDF pour les massacres perpétrés dans ces deux villages du territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié ce mardi, le RCT rappelle que il y a une semaine, depuis que les terroristes de M23 RDF avaient libéré la zone qu'ils contrôlaient depuis novembre 2022, depuis lors, les ONG des droits humains et les médias ont découvert des fosses communes et des ossements humains établissant la gravité des exécutions sommaires. Jeff Ngoy Mulunda.
Ces éléments de preuve corroborent les rapports préliminaires établis à la fin de l'an passé par le BCNUDH. Ce dernier avait confirmé que plus de 170 personnes étaient tuées entre le 29 et 30 novembre 2022 en guise de représailles contre la population civile de Kishishe et Bambo. Il avait conclu que ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, viol, enlèvement et pillage contre les deux villages après les affrontements avec l'armée nationale. Selon le réseau contre le terrorisme, le 14 avril, les mêmes terroristes ont systématiquement pillé l'hôpital général de Rwanguba et la maison des missionnaires, tabassé violemment les infirmiers et emporté tous les biens de valeur. Des actes pareils à ceux qu'ils ont commis à l'hôpital de Birambizo en février dernier. Au regard des preuves, indique le communiqué, la société civile prévient qu'elle n'acceptera aucune négociation politique qui tiendrait à soustraire les présumés auteurs de crimes internationaux de leur responsabilité pénale par leur intégration au sein de l'armée nationale comme par le passé. Elle exhorte la population de veiller à ce qu'aucun trophée ne soit remis aux terroristes du M23, au gouvernement congolais de solliciter l'appui de la communauté internationale afin de poursuivre tous les présumés auteurs de ces crimes.
Et puis, sachez que l'opération d'identification biométrique des professionnels de la justice militaire révèle un effectif élevé des éléments militaires ne faisant pas partie du siège d'après le contrôle fait récemment par l'inspection générale des FARDC. Ils se sont fait identifier comme membres de la haute cour militaire alors qu'ils ne le sont pas. C'est ce qu'a révélé le premier président de la haute cour militaire lors d'une parade organisée hier à Kinshasa. Le lieutenant général Joseph Mutombo Katalay a, dans une causerie morale, invité 153 militaires assemblés autour de lui à dénoncer ce comportement au sein de la cour militaire. Il a aussi mis en garde tous celui qui sera auteur de la perte constatée des munitions, armes et autres matériels militaires en coopération avec des bandits. Il s'exposera ainsi à des poursuites judiciaires, selon le général Mutombo. Nous sommes à présent au Nord Kivu. Le tribunal militaire de garnison de Beni a débuté hier une série d'audiences foraines à Kassindi-Lubiria, une commune rurale du territoire de Beni. Au total, 29 prévenus, dont 13 militaires FARDC et 16 civils, sont poursuivis pour différentes infractions, notamment viol d'enfants, viol, tentative de viol, meurtre et homicide involontaire commis dans le territoire de Beni. Ces audiences foraines vont se dérouler jusqu'au 26 avril prochain. Elles bénéficient de l'appui technique et financier de la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. En Ituri, les notables de la chefferie de Banyarikilo dans le territoire de Djougou dénoncent l'occupation de 13 groupements parmi les 15 que compte cette entité par les miliciens de la CODECO. Ces derniers commettent des exactions contre la population, notamment le meurtre, enlèvement, pillage et incendie des maisons. Selon le président de cette communauté, plus de 150 sites miniers sont également contrôlés par ce groupe armé. Le porte-parole de l'armée en Ituri rassure que des dispositions sont prises pour restaurer l'autorité de l'État dans cette région. Le point avec Isaac Remoyope.
Parmi les groupements qui sont occupés par cette milice, il y a Mame, Akeso, Kirongozi, Wazabo, Mayala. Toutes ces entités sont quasi vidées de leurs habitants à cause des exactions de la milice CODECO qui sont perpétrées chaque semaine dans la région. Le dernier cas, c'est le meurtre de 46 personnes le vendredi dernier à Kilo et Matete. Selon les présidents de cette communauté, ces miliciens font la loi dans ces entités et y exploitent de l'or dans plus de 150 sites miniers. Ils utilisent même des machines pour extraire de l'or pour financer leur groupe armé. Vital Tungulu, Kilo alerte le gouvernement pour des mesures concrètes.
Le secteur de Banyal Kilo, il y a de l'or partout. Les miliciens de Codeco occupent la quasi-totalité et ils sont en train de gérer et d'exploiter plus de 150 carrés miniers. Il y a même des machines Poclet qui sont là-bas. Nous n'avons jamais enregistré la moindre attaque armée pour les déloger.
Les porte-parole de l'armée en Ituri indiquent que ces miliciens sont des natifs de ces milliers et se dissimulent parmi la population. Cependant, les FARDC s'activent pour restaurer l'autorité de l'État dans ces entités. Les lieutenants Gilles Ngongo.
Ils sont là en urgence parce qu'ils sont les enfants des milliers. Nous sommes dans le processus de reconquête de toutes les entités occupées par les forces du mal.
Plusieurs autres villages dans les territoires de Djougou et une partie des Mahagi sont occupés par Codeco. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema, la population du territoire de Kabambare éprouve des sérieuses difficultés presque dans tous les domaines. Le député provincial de cette circonscription électorale qui revient de ce coin a fait ce constat et signale des problèmes en rapport avec la santé, l'éducation, des infrastructures routières. Thierry Badisungu évoque aussi la non-assistance des villages incendiés il y a quelques mois dans le groupement Baganaïdi, secteur de Bébé Lulindi, ayant provoqué un déplacement massif des populations vers d'autres secteurs. Thierry Badisungu est au micro de Florence Kiza.
Dans la partie visitée, j'ai constaté que toutes les routes et quelques ponts se trouvent dans un piteux état et nécessitent une réhabilitation urgente. Le deuxième, c'est le problème de la santé. Dans ce domaine, j'ai constaté premièrement l'absence de partenaires pour appuyer les différentes zones de santé, les hôpitaux généraux et les centres de santé de la partie visitée. Il y a également l'insuffisance et ou l'absence du personnel soignant dans plusieurs structures de santé, mais surtout les postes de santé qui sont implantés dans des villages. On a enregistré aussi le manque d'approvisionnement en médicaments et autres intrants par le gouvernement et les autres partenaires. Nous avons constaté aussi une partie de la population visitée consomme encore de l'eau sauvage. Il y a également l'insuffisance des sources d'eau potable. Le troisième, c'est le problème de l'éducation. Nous avons trouvé que les élèves étudient actuellement dans les églises et dans quelques maisons des particuliers. Vu tout ce qui précède, je demande de penser en toute urgence comment venir en rescousse de cette population qui a tant souffert.
Le programme de développement local de 145 territoires emploie 80% de la main-d'œuvre locale dans la province du Sud-Ubangi. C'est ce qu'a indiqué à la presse la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, qui gère ce programme dans le Sud-Ubangi. C'était en marge d'une rencontre avec les forces vives de la ville de Gemena. Des précisions avec notre envoyé spécial sur place, Paul Matendo Mayamba.
Cette main-d'œuvre dite qualifiée est composée, entre autres, des ingénieurs, des maçons, des charpentiers, des ferrailleurs, mais aussi d'une main-d'œuvre simple, c'est-à-dire des personnes habilitées à exécuter toute tâche. Cela permet à ces travailleurs, selon Stéphane Zou, l'un des notables de Gemena, de répondre à leurs besoins socio-économiques.
La main-d'œuvre locale, c'est bon, c'est pour aider aussi la population de survenir à leurs besoins. Nous voyons ici que ça, c'est très bien pour que le développement de notre territoire, soit de Gemena, de Libengue, de Boudjala, puisse développer.
Parmi ces travailleurs localement recrutés, Lisette et Likia Amani.
Je m'occupe de la surveillance et des contrôles des travaux.
Alors, dis-nous, les travaux sont avancés à quel niveau?
Avec les 2 mois qu'on a fait, nous avons fini la fondation. Nous sommes sur l'élévation du hall de causerie et le bâtiment principal du centre de santé.
Ce programme permet également aux jeunes apprenants des métiers à faire des exercices pratiques dans les 41 chantiers développés à travers la province, a indiqué la CFF. De la ville de Gemena, dans la province du Sud-Ubangi, Paul Matindo, Radio Okapi.
Au Congo central, les déclarants en douane issus des différentes corporations et exerçant leurs activités à Matadi, Boma et à Lufu étaient en réunion hier à Matadi. Objectif, réfléchir sur la hausse vertigineuse de la valeur en douane que la DGDA a configurée dans son système Sidonia. Car d'après eux, cela met en péril le secteur douanier du Congo central avec des graves répercussions sur la population. Ils estiment aussi que ceci va à l'encontre de la loi régissant non seulement le code de douane mais également tous les textes réglementaires et légaux en place. Pour obtenir gain de cause à leurs revendications, ils sollicitent l'intervention personnelle du chef de l'État. Nous n'avons pas pu avoir la réaction de la direction générale DGDA à ce sujet.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Les affrontements depuis samedi entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1800 blessés, selon l'ONU. Des colonnes de fumée noire plombent le ciel de Khartoum, la capitale soudanaise, où les combats à l'arme lourde ont piégé des civils chez eux, souvent sans électricité et sans eau. En Ouganda, les procureurs ougandais ont inculpé lundi un deuxième ministre pour des délits liés à la corruption dans le cadre d'un scandale résultant du détournement des plaques de toiture qui auraient dû être distribuées à des personnes vulnérables. Amos Lugolobi, ministre des Finances chargé de la planification, a plaidé non coupable lors de sa comparution devant un tribunal de la capitale Kampala. Une autre ministre, Marie Goretti Kitutu, a été inculpée, elle, de la même manière. La semaine dernière.
L'invité.
Ce midi, nous recevons l'ingénieur Alain Mugangu, chef de division technique à l'Office des routes Sud-Kivu. Il revient sur la question de la dégradation des routes nationales qui passent par la province du Sud-Kivu. Il s'agit notamment des routes nationales numéro 2, axe Bukavu-Goma, numéro 3, Bukavu-Walikale-Kisangani et numéro 5, Bukavu-Uvira. Alain Mugangu s'entretient avec Jean Kassami.
Alain Mugangu, vous êtes le chef de division technique à l'Office des routes Sud-Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état des lieux sur la route RN2 et la RN5?
La route nationale numéro 2 était coupée au niveau du lycée Wima. Et donc, il y avait plusieurs institutions qui étaient pénalisées avec cette coupure. Grâce au plaidoyer de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, à travers le gouvernement central, nous avons reçu les fonds. Et c'est comme ça que nous avons commencé à intervenir. Nous avons déjà réussi à réduire la pente qui empêchait les véhicules de monter vers l'ISTEM. Et nous continuons avec les travaux de rechargement pour permettre à ce que les véhicules passent aisément. Les moyens que nous avons reçus consistent à recharger, à reprofiler les tronçons ISTEM et Place de l'Indépendance. Il est vrai que, des fois quand il pleut, la route, ça glisse. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, la priorité, c'est d'abord la faille du lycée Wima. Parce que la route était coupée, les habitants de Chiriri et Karal n'arrivaient plus à rejoindre la ville. C'est comme ça que, dans toute urgence, nous nous sommes attelés pour travailler l'affaissement du lycée Wima.
Sur la RN5, du côté pont Kakenge aussi, ça posait problème. Est-ce qu'il y a une ébauche de solution également de ce côté-là?
À Kakenge, il y a les ponts, c'est OPK98, qui était parti. Alors, il était question dans un premier temps d'aménager une déviation et c'est toujours avec le plaidoyer du vice-premier ministre, nous avons reçu les moyens pour aménager un passage à gué. Actuellement, nous sommes en train de recharger parce que c'est un terrain marécageux et nous pensons que d'ici une semaine, les véhicules vont commencer à passer sans s'embourber. Nous sommes en train de mettre la bonne carrière, les matériaux latéritiques pour permettre à ce que le trafic reprenne en bon escient.
Les travaux des routes dans la province, c'est un grand chantier. À part les deux tronçons là qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres travaux en cours?
En effet, nous avons reçu le financement du FONER dans notre programme d'entretien routier. Et là, ça nous a permis de nous déployer sur la RN3 vers Miti-Bunyakiri. Nous sommes également à Shabunda. Et même dans la plaine de la Ruzizi, nous sommes en train d'exécuter des travaux de lutte anti-érosif. Mais aussi, il y a d'autres projets qui vont bientôt commencer et nous sommes en train de nous mobiliser pour que le programme soit effectif.
Puisque vous venez de citer la RN3, on a vu les travaux lancés avec pompe, mais après un moment, ça s'est arrêté. La reprise, ça aura lieu quand?
Sur la RN3, effectivement, nous avions commencé, mais il s'est fait qu'à Luzira, sur la RN2, il y avait un problème, les ponts aussi étaient partis. C'est comme ça que nous avons utilisé les matériels qui travaillaient sur la RN3, nous les avons pris momentanément. Mais pour l'instant, les matériels sont déjà rentrés et l'équipe est en train de travailler.
L'autre fois, l'Office des routes Sud Kivu évoquait le problème de manque de moyens, des outils vétustes. Aujourd'hui, ces problèmes-là sont-ils écartés ou ils demeurent réels?
En tout cas, la vétusté des engins, c'est vraiment un grand défi. Et d'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour lancer notre cri d'alarme. Les matériels, nous les avons acquis il y a de cela plus de 10 ans. À part ça, il y a la rareté des pièces de rechange. On ne sait pas trouver les pièces de rechange sur le marché local et ça handicape un peu le rythme du travail.
Et que donc cette vétusté du matériel et tous les autres problèmes annexes ne permettraient pas aux habitants de Chabunda, par exemple, de Fizi, d'espérer avoir une route carrossable pendant cette saison sèche qui s'annonce?
Non, nous allons nous battre avec les moyens de bord. Nous avons de bons techniciens et il est vrai que ça peut impacter sur le planning, mais pas sur la qualité du travail.
Monsieur le chef de division technique à l'Office des routes, Alain Mugangu, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.